En novembre 2003, la Cour suprême des États-Unis a donné l'ordre au premier juge de l'État de l'Alabama de retirer le monument de 2,5 tonnes qui représentait les 10 commandements et qui se trouvait devant le palais de justice. Le juge a refusé et le cas est allé en appel. Une deuxième fois, on a demandé au juge d'enlever le monument des 10 commandements qui était devant le palais de justice. Et le juge a refusé en disant, en fait, les 10 commandements sont la base de toutes les lois humaines, et dans ce sens, ce monument n'est pas une infraction au principe de la séparation de l'Église et de l'État. Un sondage a été fait à ce moment-là, et a révélé que 77% des habitants de l'État de l'Alabama étaient d'accord avec leur juge. Les commandements reviennent à la surface. On dirait qu'il y a une sorte de résurrection des commandements dans l'intérêt public aujourd'hui, en particulier aux États-Unis. Les mouvements religieux qui ont contribué en partie à porter le dernier président des États-Unis au pouvoir s'intéressent de plus en plus à la valeur des 10 commandements. Ils ont choisi la date du 7 mai 2006 pour en faire une journée particulière, une journée spéciale dans tout le pays, pour célébrer l'importance des 10 commandements et pour en faire la promotion. La raison pour laquelle cet intérêt revient à l'ordre du jour, c'est parce que finalement, on se rend compte que la société occidentale et en Amérique, américaine en particulier, pour ceux qui font la promotion de cette journée, est une société qu'ils constatent comme en dégradation morale constante. Et quelques chiffres vont simplement nous rappeler une réalité de tous les jours. En 2004, par exemple, aux États-Unis seulement, on a enregistré 1 600 000 crimes graves. Vol, viol, meurtre, attaque à main armée, etc. Dans un sondage réalisé par le groupe Barna, on a constaté que 83% des jeunes en dessous de 20 ans considéraient que la morale dépend des circonstances. 6% d'entre eux seulement disent « la vérité morale est absolue ». 6% seulement. D'un autre côté, 70% de tous les jeunes en dessous de 20 ans reconnaissent avoir eu des relations prémaritales. Et aux États-Unis, les sondages révèlent que 63% seulement des jeunes enfants grandissent avec leurs deux parents biologiques. Seulement 63% des jeunes enfants. Nous vivons donc aujourd'hui dans une société de relativisme moral. La morale va dépendre des circonstances. Et on entend les slogans d'aujourd'hui qui nous disent « Ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour moi. Donc je choisis. » Ou bien encore « Moi, je m'occupe de mes propres affaires », sous-entendant par là, tu t'occupes des tiennes et puis tu te mêles pas des miennes. Ou bien encore, la morale absolue, ça, c'est le problème des gens étroits d'esprit. Voilà quelques-uns des slogans que l'on entend aujourd'hui. Et en effet, notre société d'origine chrétienne se retrouve dans une curieuse situation où, en même temps, étant chrétienne, elle prône le fait que chacun est uniquement responsable de lui-même et de ses choix. Cette société chrétienne dit aujourd'hui que chacun a le droit de définir pour lui-même ce qui est bien, ce qui est mal. Et de plus, on considère comme une injustice majeure lorsque tout d'un coup des conséquences néfastes se manifestent parce que quelqu'un a fait un choix qui lui était personnel. Et gare à celui qui ose porter un jugement sur ce que les autres ont choisi pour eux-mêmes. On se trouve là devant une situation que la Bible elle-même avait annoncée. Cette situation de relativisme moral du monde actuel n'est en fait pas nouveau non plus. On retrouve certaines pages de l'histoire du peuple d'Israël marquées par cette même tendance. Et ainsi, la Bible nous annonce que, effectivement, ce relativisme moral sera récurrent dans l'histoire. Regardez par exemple ce texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53 et au verset 8. Dans un contexte bien particulier qui est celui de l'annonce prophétique de la mort de Jésus, nous découvrons ce passage particulièrement intéressant. Ésaïe, chapitre 53, le verset 8 dit ceci. Verset 6, pardon. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et dans le contexte du chapitre 53 d'Ésaïe, il est intéressant de voir à quel point cette situation, où chacun détermine ce qu'il a envie de faire, nécessite le sacrifice de Jésus pour nous en racheter. Dans le livre d'Osée, au chapitre 8, au verset 7, il est dit « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » Et encore une fois, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, je vous propose de lire avec, de suivre avec moi ce qu'il est écrit à partir du verset 20. Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Ésaïe, chapitre 5, verset 20, dit ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. La parole de Dieu décrivait déjà cette situation de ceux qui veulent faire le bien mal et le mal bien, et qui se pensent plus intelligents que les autres, plus ouverts en faisant ces choses. La parole de Dieu nous confirme d'une manière claire que le bien et le mal n'est pas une notion soumise à l'opinion personnelle des individus. La parole de Dieu nous dit clairement que la définition du bien et du mal, la définition du péché, n'est pas remise à la discrétion des individus dans une société donnée ou dans une autre. C'est la prérogative même de Dieu. La Bible nous enseigne que le péché ne peut pas être défini par convenance et par commodité, mais qu'au contraire, les commandements de Dieu sont le mode d'emploi du Créateur pour tous ceux qui veulent vivre heureux. Cependant, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation véritablement déroutante. Parce que les chrétiens ont crié haut et fort pendant longtemps que la loi de Dieu a été abolie à la croix par Jésus. Mais voilà que les mêmes chrétiens d'aujourd'hui font la promotion des 10 commandements d'une façon claire et publique. Ils en font un jour de célébration et demandent à tout le monde de les respecter. Il y a là une contradiction qu'il est difficile de comprendre et qu'il est difficile de résoudre Bible en main. La parole de Dieu, devant cette incohérence, nous dit clairement que les commandements de Dieu ne sont pas passagers et ils ne sont pas à la disposition des uns et des autres des fois que ça les intéresse. Regardez par exemple ce qu'il est dit dans le psaume 111, le verset 7 et 8. Psaume 111, verset 7 et 8. Psaume Psaume 111, versets 7 et 8 dit ceci. En parlant de Dieu, les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Voilà ce que le psalmiste dit sur les commandements de Dieu, ses ordonnances. Et regardons ensemble ce que Jésus en pense dans l'évangile de Matthieu. Nous pouvons lire au chapitre 5 ce texte bien connu où Jésus réaffirme la pérennité de la loi de Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Nous connaissons ces versets où Jésus parle au verset 17 et dit ceci. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu, dit Jésus, pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Jésus est clair, il n'est pas venu pour renverser, il est venu pour la confirmer, et sa vie d'ailleurs est une confirmation solennelle de la valeur et de l'éternité de cette loi. Jésus n'est pas venu détruire, par exemple, le cinquième commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Que ce soit dans son enfance, ou que ce soit au moment de la croix où il meurt, Jésus a montré à quel point il honorait ses parents. Jésus n'est pas venu non plus détruire le sixième commandement qui dit « Tu ne tueras point ». C'est lui, au contraire, qui a rendu la vie à ceux que le diable avait frappés à mort. Jésus n'est pas venu détruire le septième commandement qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». C'est lui qui a relevé cette femme et qui lui a dit « Va et ne pêche plus ». Jésus n'est pas venu non plus détruire le huitième commandement qui dit « Tu ne déroberas point ». D'ailleurs, lui-même ne possédait rien. Il n'avait, dit-il, même pas un lieu où reposer sa tête, alors qu'en réalité, il est le créateur et le propriétaire de tout. Jésus, par sa vie, a montré qu'il était venu mettre la loi de Dieu en valeur et montrer à quel point elle est réalisable dans la vie du croyant. Maintenant, cette loi de Dieu, aucun gouvernement ne peut nous contraindre à l'obéir, à y obéir. Ce n'est pas non plus une bonne morale qui peut nous y obliger. Ce n'est même pas la religion qui peut nous l'imposer. L'orgueil humain ne va pas nous conduire à obéir à la loi de Dieu davantage. La peur ne nous donnera pas davantage la force d'obéir à la loi de Dieu. Jésus a précisé dans les évangiles quelle est la seule motivation à l'obéissance au commandement. Le seul moyen, d'ailleurs, d'obéir dans le vrai sens du terme. Et vous connaissez ce passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 15, où Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et ce faisant, Jésus précise qu'il n'y a qu'une seule manière de garder les commandements de Dieu. C'est de l'aimer lui qui les a donnés. Il n'y a pas d'autre manière. Sans amour, pas d'obéissance. C'est fort simple. C'est ce que nous comprenons d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Permettez, vous qui êtes père dans cette salle, que je vous donne un exemple. Vous qui êtes père, vous demandez un jour à un de vos enfants, par exemple, de prendre le sac de poubelle et d'amener au bord de la rue. Qu'est-ce que vous allez dire si cet enfant à qui vous avez demandé de rendre ce service vous répond « Ah, papa, je t'aime tellement que je ne vais pas le faire. Parce qu'il faudra que tu crois que je t'aime sans que j'aie besoin de te le montrer. » Comment est-ce que vous allez trouver cette réponse? Et pourtant, n'est-ce pas la réponse que beaucoup de chrétiens donnent à leur Père Céleste aujourd'hui? Je t'aime tellement que ce que tu me demandes de faire, Seigneur, je ne vais pas le faire. Comme ça, tu verras combien je t'aime, n'est-ce pas ? L'apôtre Paul, c'était insurgé contre ceux qui n'avaient toujours pas compris cette évidence. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3 et au verset 31, l'apôtre Paul disait « Annulons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. » L'apôtre Paul ne parle pas autrement que Jésus sur ce sujet-là. Maintenant, alors que le monde discute et se dispute pour savoir si l'on peut laisser des monuments sur la place publique qui représentent les commandements de Dieu, s'il faut les accrocher sur les murs des palais de justice ou pas. Pour le chrétien, la vraie question n'est pas de savoir s'il va mettre dans son jardin un monument représentant les 10 commandements, mais la question est de savoir si ces 10 commandements sont véritablement inscrits dans son cœur. Cette loi est-elle véritablement écrite dans notre cœur ? L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, présente là une promesse de la part du Seigneur, et qui n'est pas une nouvelle promesse, elle se trouve déjà inscrite dans l'Ancien Testament. J'aimerais la relire avec vous dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8. Épître aux Hébreux, chapitre 8. Il est dit au verset 10, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » L'apôtre Paul reprend ici cette promesse, explique que dès le départ, le projet de Dieu n'était pas simplement d'avoir sa loi inscrite dans la pierre pour montrer à quel point elle est éternelle. Mais le projet de Dieu, le projet d'origine, était d'avoir cette loi inscrite dans le cœur de chaque être humain. Maintenant, je comprends que cette loi de Dieu est éternelle. Or, nous attendons avec impatience le moment où le Seigneur va nous accorder cette vie éternelle au moment où Jésus reviendra. Mais cela veut dire que pendant le reste de l'éternité, nous allons continuer à vivre selon les principes mêmes de cette loi que Dieu nous a donnée. Si cette loi est éternelle, elle n'a pas été inventée à la création, et elle ne sera pas non plus caduque le jour où Jésus va revenir, pas plus qu'au jour où il est mort sur la croix. Ainsi, si cette loi est véritablement éternelle et que Dieu l'a placée entre nos mains, je comprends par là qu'il voudrait nous voir déjà vivre selon cette loi pour nous préparer, pour nous mettre sur la lancée de cette vie éternelle qu'il nous propose. Finalement, nous ne sommes pas invités à autre chose qu'à commencer maintenant la vie éternelle, en vivant selon les principes de cette loi qui gouvernera toute la création pendant l'éternité. Ainsi, qu'est-ce que ça veut dire avoir la loi de Dieu dans le cœur ? Cela veut dire que je ne pense même pas à l'idée d'avoir un autre Dieu ou quelque chose dans ma vie qui va prendre la place de Dieu. Je ne pense même pas d'avoir une image taillée quelconque devant laquelle je vais m'agenouiller pour parler à Dieu. Si j'ai cette loi dans le cœur, ça veut dire que rien dans mon existence ne va prendre la place prioritaire de Dieu dans mon temps, dans mes préoccupations, dans l'utilisation de mon argent. Si j'ai la loi de Dieu dans le cœur, ça veut dire que je ne penserai même pas à prendre le nom de Dieu pour des profanités. Parce que pour moi, ce nom de Dieu est trop précieux pour l'utiliser n'importe quand, à n'importe quoi. Avoir la loi de Dieu dans le cœur, ça veut dire que je ne vais même pas penser aller l'adorer un autre jour que le samedi, le septième jour de la semaine, parce que c'est ce jour-là qu'il a rendez-vous avec moi, et c'est ce septième jour de la semaine qu'il a mis à part pour que je puisse le rencontrer. C'est quelque chose qui ne me viendrait même pas à l'idée d'aller à l'église un autre jour. Cela veut dire que je ne vais même pas penser à l'idée de tuer mon voisin, ne serait-ce qu'en calomnie ou en médisance. Encore moins en abrégeant sa vie, évidemment. Avoir la loi de Dieu dans le fond de mon cœur, c'est ne même plus avoir des pensées semblables. Avoir la loi de Dieu dans le cœur, c'est en être au point où je ne vais même pas m'intéresser à la femme ou au mari de ces gens avec qui je suis en contact constamment. Ça ne me viendrait même pas à l'idée. Avoir la loi de Dieu dans le cœur, ça signifie que quand on me pose une question, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Parce que ça ne me viendrait même pas à l'idée de dire autre chose que la vérité, parce que la vérité, c'est la vérité. Et ainsi de suite, avoir la loi de Dieu dans son cœur, c'est vivre finalement cette transformation intérieure profonde qui fait que on ne pense même pas à faire autrement que ce que Dieu nous propose de vivre. Cette loi devient en fait finalement non pas un credo, non pas une croyance, mais tout simplement le mode d'emploi quotidien, auquel je ne pense même plus parce qu'il fait partie intégrante de moi-même. Ce sont ces choses auxquelles je pense spontanément, ces pensées de Dieu qu'il a mises dans sa loi. Les autres ne me viennent même plus à l'esprit, parce qu'en moi s'est réalisée cette transformation en profondeur que l'Éternel y a accomplie par l'action de son Saint-Esprit. Ainsi, j'ai aussi un test pour savoir à quel point cette loi est intégrée en profondeur dans mon cœur. L'apôtre Jean, dans sa première épître, nous donne ce test. Lisons-le ensemble, voulez-vous ? Première épître de Jean, chapitre 5. Première épître de Jean, chapitre 5. Premier épître de Jean, chapitre 5, il est écrit au verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Vous avez remarqué, cet amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Certains vont dire, l'amour de Dieu consiste à garder son commandement, le commandement d'amour qui englobe le tout. Mais je ne peux jamais manifester cet amour envers Dieu si je ne suis pas fidèle dans tous les commandements. S'il en manque un, me dit la parole de Dieu, c'est comme si, finalement, je n'en observais aucun. Je tombe à côté de la loi. C'est le sens véritable du mot « péché », visé à côté. Par conséquent, pour manifester envers Dieu cet amour, il me demande d'être fidèle dans tous ses commandements. Et comment vais-je savoir si je les ai intégrés ? Oh, c'est simple. Ce sera le jour où ces commandements ne sont pas pénibles. Je n'ai pas besoin de me forcer pour les faire. Ils sont devenus une deuxième nature pour moi. Parce que je les ai choisis et choisis et choisis encore. Jusqu'à ce que finalement, ils soient partie intégrante de ma volonté et qu'ainsi le Seigneur fasse en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En lisant le livre de l'Apocalypse, j'apprends cependant que, à la fin des temps, Dieu cherche à avoir sur la terre un peuple qui vit dans la fidélité de ses commandements. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, nous trouvons cette indication qu'à la fin des temps, au moment de la dernière proclamation de l'Évangile éternel au monde, il y a des hommes et des femmes et des jeunes pour qui les commandements de Dieu sont importants. Le contexte est intéressant parce que les trois anges dont il est question dans le début de ce chapitre apportent au monde une dernière proclamation de l'Évangile éternel. Avant que le chapitre 14 ne se termine, nous avons une description symbolique du retour de Jésus. C'est dire à quel point nous sommes dans le contexte de la fin des temps. Et je crois que nous sommes aujourd'hui dans ce contexte. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, des voix se lèvent pour annoncer l'Évangile éternel. Mais regardez ce qu'il est dit au verset 12. C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dieu avait depuis longtemps ce projet. Le projet d'amener des hommes et des femmes, des jeunes, à intégrer cette loi divine, ou si vous voulez, dit autrement, ce caractère divin, pour qu'ils deviennent part d'eux-mêmes et qu'ils soient ses représentants à la fin des temps. Ce sont ceux que la parole de Dieu appelle les saints de la fin des temps, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce projet, Dieu veut le réaliser pour nous qui vivons à la fin des temps. Depuis longtemps, il a ce plan en tête. Déjà dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 36, Dieu avait exprimé comment ce projet pouvait se mettre en place. Lisons ensemble, voulez-vous, dans Ézéchiel, chapitre 36. Quel est le projet de Dieu pour son peuple ? Ézéchiel, chapitre 36, nous lirons dès le verset 26. Notez que nous sommes ici en plein Ancien Testament. Dieu parle à son peuple, celui qu'il va visiter sous le nom de Jésus. Et il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, je vous délivrerai de toutes vos souillures. » Vous remarquez qu'il y a dans ce passage les trois grandes étapes du plan du salut. Dans le verset 26, le Seigneur se propose de nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est là la renaissance, c'est là la justification, ce moment où notre péché est enlevé par la grâce de Dieu. Mais le plan du salut ne s'arrête pas là. Il continue, verset 27, et Dieu dit « Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. » Le Seigneur nous fait comprendre que c'est par sa puissance et par son esprit en nous que nous serons rendus capables d'obéir. C'est sa puissance en nous qui va nous rendre obéissants. C'est son amour en nous qui va nous rendre obéissants. Et le résultat, au verset 28, « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. » Justification, sanctification dans la transformation de l'obéissance et finalement la glorification, nous partagerons la gloire de Dieu lorsque Jésus reviendra. Ce plan du salut en trois étapes, c'est celui que nous retrouvons dans le sanctuaire, c'est celui que nous trouvons dans l'Ancien Testament. C'est celui dont l'apôtre Paul parle aussi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6. Épître aux Romains, chapitre 6, nous trouvons dans un verset plus dense les trois mêmes étapes du plan du salut. Il le dit au verset 22, Épître aux Romains, chapitre 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous voyez dans ce passage les trois mêmes étapes que celles que nous avons lues dans Ézéchiel 36. Vous avez été affranchi du péché. C'est la justification qui nous est offerte par la foi en Jésus seul. Vous avez pour fruit la sainteté. C'est ce que nous appelons dans notre jargon la sanctification, cette transformation où le caractère de Jésus se trouve de nouveau restauré en nous. Et vous avez pour fin la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur nous réserve, c'est ce que nous attendons, qu'il réalisera à son retour, qui ne saurait tarder d'ailleurs. Dans le psaume 119, où nous lisions tout à l'heure, le psalmiste lance un cri à Dieu que je trouve extrêmement moderne. Moderne parce qu'il est à propos aujourd'hui et approprié comme il était à cette époque-là. Dans le psaume 119, au verset 126, le psalmiste crie et dit « Il est temps que Dieu agisse, il transgresse ta loi. » Nous pourrions ensemble aujourd'hui redire ces paroles parce que « Il est temps que Dieu agisse. » Le monde transgresse sa loi. Nous savons par la parole de Dieu que Dieu va bientôt faire deux choses. Et ce sera à nous finalement de choisir laquelle nous voulons qu'il fasse pour nous. Il va soit restaurer son caractère et sa loi entièrement en nous, l'intégrer parfaitement, de sorte que nous la vivions naturellement, par sa grâce, ou bien alors il va détruire tous ceux qui auront choisi une autre loi, la loi du péché qui conduit à la mort. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que deux, nous dit la parole. Et le choix nous revient de savoir à quelle loi nous voulons obéir. La loi de Dieu ou la loi du diable. Maintenant, depuis le temps que nous avons entre les mains sa parole et que nous l'étudions, nous avons avec le temps développé la grâce de découvrir toutes ces choses, de découvrir la puissance de la loi de Dieu, de découvrir son caractère éternel et incontournable. Et le Seigneur ce matin nous dit encore une chose. Ne vous disputez pas pour savoir si on enlève ou si on laisse le monument dans le jardin public qui représente les 10 commandements. Ne vous disputez pas pour savoir si vous allez mettre des tables de pierre sur le mur du palais de justice ou ailleurs. Cherchez donc à savoir si cette loi est inscrite dans votre cœur. Nous la connaissons. Le Seigneur nous l'a donnée. Il nous a donné en Jésus l'exemple même de cette loi parfaitement réalisée. Et ce matin, le Seigneur nous dit encore, comme dans Jean chapitre 13 au verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen.